C'est quand la dernière fois que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio? C'est quand Michael Jackson était encore noir? The Cure?
J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu.
Les Canu Info.
Canu Info
du mercredi.
Bonsoir.
Et il est 19h passé de 9 minutes, dis donc, notre générique était long aujourd'hui, mais c'est enfin l'heure du Canu Info.
Et de son sommaire.
Et de son sommaire. Avec ce soir, les 1% les plus riches qui polluent deux fois plus que les 50% les plus pauvres. Et puis un rapport du Sénat sur les autoroutes, on en a parlé un petit peu ailleurs, mais là on va en parler, vous allez voir, ça va être un petit peu rigolo je crois. On ne peut plus compter sur l'IGPN, finalement, c'est même l'IGPN qui dit ça, que ça serait bien les flics qui auraient assommé cette pauvre Geneviève Gay.
Ensuite, on va passer à la rubrique « Faut que ça se sache » et on aura les contours de la future réforme de l'asile en Europe. Ensuite, on parlera du procès qui a lieu aujourd'hui de Pierre-Alain Mannoni. Et on ira faire un tour du côté de Calais avec le tribunal qui valide l'interdiction de distribution de nourriture, tout simplement. Et on finira par parler de ce bateau de sauvetage qui est le Alan Kurdi, qui met le cap actuellement sur Marseille.
Canu Info.
Et donc le 28 septembre sera discutée à l'Assemblée nationale la loi dite ASAP, cette loi qui augmente le pouvoir des décisions du préfet. Dans celle-ci a été glissé un petit amendement anti-squat qui surfe sur le dernier fait divers qui a concerné des squatteurs. C'était à la fin du mois d'août, quand un couple de retraités lyonnais apprenait que leur résidence secondaire près de Cannes était occupée par une famille.
Ah oh, mon Dieu.
Oh, mais ces histoires, on les entend toujours, on les croit jamais, mais tu veux dire que celle-là aurait peut-être été vraie.
En tout cas, je pense que ça a permis à la presse locale de vendre du papier. Quoi.
Mais voilà, locale et nationale. Hein.
Oui. Et elle a donné pas mal d'idées aux fabricants d'amendements que sont les sénateurs et députés. Là, je ne sais pas si ça vient d'un sénateur ou d'un député. Toujours est-il qu'il introduit le terme de résidence occasionnelle qui était absent de la loi française. La loi, et puis aussi de la loi financière française. Hein. Il n'y a pas de taxe précise pour des résidences qui seraient dites occasionnelles. Donc, puisqu'il n'est ni une résidence principale, ni une résidence secondaire, une résidence occasionnelle est donc un logement vacant, une ruine, un terrain ou tout espace sur ou dans lequel un propriétaire s'est établi quelques heures, quelques nuits, à un moment donné, pour pique-niquer, y dormir, lui ou une autre personne. Donc, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est n'importe quel type de lieu. Cette décision naît du mythe que les procédures judiciaires sont longues pour le propriétaire, ce qui est assez faux. En moyenne, les procédures d'expulsion durent 34,7 jours. C'est un nombre qui inclut les affaires de loyer impayées. Les procédures qui concernent les squats tombent plutôt à 23,5 jours. On est très loin des procédures qui dureraient des mois ou même des années. Et pour les rares cas d'occupation d'un domicile principal, c'est résolu souvent en une poignée de jours.
Car quand même ça vaut le coup de le préciser, en fait quand on occupe un logement principal il s'agit d'un délit et on n'est pas du tout protégé par le droit au logement comme il s'est prétendu un peu dans les médias.
Voilà. Et au nom de ces prétendues procédures trop longues, l'amendement prévoit tout simplement de se passer de juge. Plus d'avocats, plus de défense.
Ah, autant dire qu'il a quand même peu de chances de passer, en tout cas on l'espère.
Ben oui, on espère, oui, parce que plus rien, quoi, plus aucun droit. Une simple décision du préfet qui sera rendue en 48 heures maximum et qui autoriserait l'expulsion.
Bah, c'est-à-dire que de toute façon, quand on ouvre un squat, généralement, les flics viennent et s'ils arrivent à rentrer, ils vous foutent bien dehors. Là, ça sera pareil, mais ça sera légal. Jusqu'à maintenant, c'est illégal de leur part. Après, ça sera juste légal.
C'est ça.
Mais en fait, ils sont en train de dire... Mais en plus, c'est un peu débile, parce que si le préfet a 48 heures pour intervenir suite à l'occupation, en fait, c'est bien ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que quand on est squatteur ou squatteuse, on doit prouver qu'on est là depuis plus de 48 heures pour empêcher, justement, le préfet de prendre la décision de nous expulser immédiatement. Si la police considère qu'on est là depuis moins longtemps que 48 heures, elle a le droit légal d'expulser les gens. Et c'est un peu tout l'enjeu dans ce genre d'occupation.
Oui, c'est vrai. Oui, mais certainement qu'après l'expulsion, il y avait un procès ou quelque chose, que là, il n'y aura plus besoin, quoi. Une telle mesure, ça ouvre la voie à l'expulsion expéditive, comme on disait, hein. Mais aussi à l'expulsion de familles locataires de bonne foi qui seraient escroquées par leur propriétaire ou des locataires non déclarés, qui ne seraient pas sur un bail. Donc c'est finalement assez similaire à ce qui avait été proposé et abandonné, heureusement, dans le cadre de la loi Elan, il y a 2 ans. Enfin, Elan. Et pour l'instant, cette loi-là, cet amendement, a été adopté par le Sénat le 5 mars, mais doit être encore discuté le 28 septembre à l'Assemblée nationale. Par mesure de précaution, le collectif de la Brèche à Amiens a appelé quand même à des mobilisations le mardi 29 septembre, donc c'est mardi prochain, devant l'Assemblée nationale, les préfectures départementales et où bon vous semblera. Si vous voulez plus de détails, il y a un très bon article de décryptage qui est publié sur Indie Média Nantes et qui rappelle en passant que le nombre de logements vacants atteint les 10% dans le parc immobilier.
Canu Info.
Et alors, comme on se rend compte hein, qu'effectivement, à chaque fois, c'est quand même les plus pauvres qui profitent de tout, contrairement à ces pauvres propriétaires, là, c'est Oxfam qui sort un nouveau rapport concernant un peu les émissions de CO2. Alors, en plus de se partager environ 50% des richesses mondiales, les 1% des plus riches font encore parler d'eux chez Oxfam, alors qu'il a sorti un rapport sur qui un peu est responsable et qui est le plus responsable des émissions de CO2. Et ben, je vous le donne dans le mille, hein, c'est toujours ces fameux 1%. Pour poser les choses clairement, le 1% le plus riche de la planète est responsable de 2 fois plus d'émissions de CO2 que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Oxfam et Stockholm Environment Institute se basent sur les données qui vont de 1990 à 2015. Autant dire sur un panel quand même assez large. C'est la période durant laquelle les émissions de CO2 ont augmenté de 60%. À l'échelle mondiale, 10% des plus riches ont été à l'origine de 52% des émissions de CO2. C'est même du 10% durant ces 20 dernières années, ont mangé un tiers du crédit carbone mondial établi pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré.
Attends, pardon, t'as dit une fois 10%, une fois 2%. Dans le titre, t'as dit 1%.
Non, alors ouais, parce que des fois, je vais parler des 1% les plus riches et des fois des 10% les plus riches.
Okay.
Alors là, je reprends. En tout cas, à l'échelle mondiale, 10% des plus riches ont été à l'origine de 52% des émissions de CO2. C'est même 10%. Il faut suivre, il y a quand même beaucoup de chiffres. C'est même 10% durant ces 20 dernières années ont mangé un tiers du crédit carbone mondial établi pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Vous savez, cette espèce de limite qu'on a mis pour limiter le réchauffement climatique qui, a priori, n'aura pas lieu. En tout cas, ces 1,5 vont être largement dépassés, c'est ça que je veux dire. De l'autre côté, les 50% les plus pauvres étaient, eux, responsables de 7% des émissions de CO2, contre 52% pour les 10% les plus riches, et ont mangé 4% du gâteau de crédit carbone. Ce crédit carbone, si on continue comme ça, hein, pour à titre d'exemple, il sera épuisé à l'horizon 2030. Mais, hein, tenez-vous bien, si on élimine 90% des plus pauvres de la population mondiale, dès demain, la consommation de ces 10% restant seuls sur la planète épuiserait le budget carbone à quelle année ? Allez, je vous donne dans le mille.
C'était quoi la première année ?
La première année, c'était 2030. Là, pour l'instant, si on continue comme ça, en 2030, hop, on a bouffé tout le gâteau de crédit carbone.
2031 ?
2033. Juste un seul. Alors, on pourrait imaginer que la hausse de ces émissions serait due à l'émergence, un peu un des trucs qu'on entend, d'une nouvelle classe moyenne dans les pays comme la Chine ou l'Inde. Vous savez, c'est un peu le gros discours de dire « Ah, maintenant, en Chine et en Inde, les pays les plus, où il y a le plus fort taux de population,
les gens qui se mettent à consommer. »
Ouais, c'est ça, ils se mettent à consommer. Alors que merde, on n'avait pas prévu, on consommait tranquillement. Parce que quand même, faire partie des 10% les plus riches, je veux dire, c'est pas dit que si vous nous écoutez, vous en faites pas partie. Hein. Parce que c'est de la 10% les plus riches de la population mondiale, le seuil ça, dans un pays riche comme la France, ça fait que c'est pas impossible quoi. Voilà, donc on se disait, ah putain, s'il y a plein de Chinois, Chinoises et d'Indiennes et d'Indiens qui se mettent à consommer comme nous, eh ben on est un peu dans la merde. Eh ben non, le rapport montre que si cette émergence a bien évidemment augmenté les émissions pour ces populations, elle a de son côté augmenté dans les mêmes proportions concernant les 10 pays, les 10% les plus riches, pardon. Bon, si on vient en France, par exemple, et qu'on casse un peu les clichés des pauvres qui polluent avec leurs voitures toutes pourries, leurs écrans plats, leurs paniers de supermarché remplis de produits préparés sur-emballés, voyez. Eh bien, en France, les 10% les plus riches, celles et ceux qui disposent de 600 000 euros de patrimoine en moyenne. Et c'est pas beaucoup, hein. Enfin, c'est pas beaucoup, si c'est beaucoup, mais je veux dire, ça en fait pas des gens que vous avez jamais vus qui roulent en jet privé toute l'année. Et voilà.
Ils sont pas forcément actionnaires.
Ouais, voilà, ça fait quand même 10% de la population. Et voilà. Ont été responsables de plus d'un quart des émissions cumulées de CO2 sur la période de 90-95, soit presque autant que la moitié la plus pauvre de la population en France. Oxfam pointe du doigt que le plan de relance du gouvernement français, qui préconise d'appliquer. Vous voyez, en gros, qui veut prévoir de soutenir un peu l'économie française contre peu d'échanges en matière de carbone, quoi. Et ben, eux, Oxfam préconise d'appliquer une taxe carbone sur les produits de luxe tels que SUV, vols fréquents en classe affaires, jet privé, d'interdire les publicités dans les lieux publics. Alors ça, c'est pas que pour parce que ça pollue au niveau des panneaux lumineux et du papier que ça consomme, mais c'est aussi que du coup l'idée c'est un peu de donner moins envie aux gens de consommer par la publicité et que du coup il y a une baisse de la consommation. Ce en quoi on voit très mal le gouvernement s'orienter là-dessus pour l'instant. Et d'investir dans les transports publics et sur l'efficacité énergétique des logements.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Et on va revenir maintenant sur un décret qui est passé assez discrètement cet été et qui va permettre aux trois grandes sociétés autoroutières, Vinci, Abertis et Eiffage, déjà plutôt riches, de garder la main sur les milliers de kilomètres qu'elles contrôlent. Donc les actionnaires de ces sociétés ont déjà empoché des dizaines de milliards de profits depuis la privatisation des autoroutes. Et avec ce décret, le gouvernement leur en promet des dizaines d'autres. Alors vendredi 18 septembre, Vincent Delahaye, rapporteur au Sénat, a présenté à la presse les conclusions de la commission d'enquête sur le contrôle et la régulation et l'évolution des concessions autoroutières au Sénat. Le rapport pointe la rentabilité élevée des autoroutes pour les sociétés concessionnaires. On s'en doutait un petit peu. 15 ans après la privatisation, les profits vont s'envoler a priori en fin de concession. Je cite, les exploitants des autoroutes se sont beaucoup enrichis 15 ans après la privatisation. Les sociétés ont versé 24 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires entre 2006 et 2019. Au-delà de 2022, le montant des dividendes versés par les sociétés d'autoroutes à leurs actionnaires pourrait atteindre 40 milliards d'euros, dont 32 milliards pour Vinci et Eiffage. C'est tellement affolant qu'on ne se rend pas bien compte des réalités, mais c'est quand même beaucoup, hein. Les sénateurs estiment qu'ils doivent être partagés plus équitablement avec l'État et les usagers. Voilà. il faudrait faire des efforts pour Vinci, Eiffage et Abertis. Le rapport va même encore plus loin. Il plaide pour la fin des concessions privées, plutôt à partir de 2031 quand même, pas plus tôt. Hein. Encore plus fort, le rapport préconise de ne pas augmenter les tarifs de péage au 1er février 2021 en raison de la crise et donc de, je cite, « veiller à ce que les retards de travaux résultant de la crise sanitaire n'entraînent pas une surcompensation tarifaire ». Le trafic a baissé depuis le confinement, les recettes sont moindres, mais, je cite, « la situation financière des concessions historiques ne saurait justifier une compensation, même partielle, des conséquences de la crise sanitaire, car la poursuite de leur activité n'est pas menacée », insiste le rapport. Voilà de quoi faire frémir Vinci, Eiffage et Abertis, qui ne sauraient augmenter leurs tarifs devant une prescription aussi injonctive. Ils n'oseront pas, quoi. Alors, le sénateur rapporteur du rapport, Vincent Delahaye, comme je disais, qui vient de l'Union centriste, se montre particulièrement énervé parce qu'il découvre des capitalistes de la route, à tel point qu'il propose un sommet des autoroutes sur le modèle du Grenelle de l'environnement pour résoudre tout ça. Avec un programme extrêmement ambitieux, puisque l'objectif serait de baisser les péages pour les véhicules propres et pour les trajets domicile-travail, voire, mais alors dans un cas extrême, de limiter la durée des concessions. Ça va loin. Hein. L'argent récupéré pourrait alors servir à développer le covoiturage, faire de nouveaux investissements et contribuer à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. Ça fait rêver.
C'est clair.
Certes, les contrats qui lient l'État et les concessionnaires autoroutiers ne se balaient pas d'un revers de main. D'autant que le rapport insiste justement sur la nécessité pour l'autorité des régulations des transports d'avoir accès à davantage d'informations dans cette jungle de contrats et d'avenants opaques. Mais enfin, tout de même, on se dit que ça ne doit pas beaucoup trembler du côté des actionnaires. D'ailleurs, leur analyse est aussi consignée dans le rapport, l'analyse des actionnaires, et Philippe Nourry, le président des concessions d'Eiffage en France, a ainsi précisé lors de son audition par la commission d'enquête que je cite, « la concession autoroutière n'est pas une activité de rente. Elle est bien par nature une activité à risque, puisque le trafic est notre seule ressource, ou presque. Il représente 97% de nos revenus. » Alors, on comprend bien l'ampleur du risque qui est pris. Parce que, imaginez, si du jour au lendemain, tous les automobilistes, camions, cars qui remplacent les TER, bref, si tout ce qui circule sur, mettons, l'A7, par exemple, se mettait à emprunter la N7, ou peut-être l'avion, pour faire le même trajet, ce serait quand même un grand risque que de perdre cette manne autoroutière. Imaginez si tout le monde
Ils
prenait la N7.
Ils se retrouvaient sur la paille, tous ces actionnaires.
Oui. On ne se rend pas assez compte de ça.
Obligés de se jeter des fenêtres de leur bureau à Wall Street.
Alors face à ce constat, les sénateurs auteurs du rapport qui ne préconisent pas, comme je disais tout à l'heure, une renationalisation des autoroutes, mais plutôt une stratégie digne d'un cauchemar quand même. Alors, je vous cite la stratégie en question. La crise due au Covid pourrait offrir une fenêtre de tir inespérée. Les sociétés d'autoroutes très endettées pourraient en effet se retrouver en difficulté si le tassement du trafic perdure. Comme on disait, ils vont se jeter des fenêtres de Wall Street. Pendant la grande récession en Espagne qui a suivi la crise financière de 2008, de nombreuses sociétés autoroutières espagnoles ont fait faillite. Et alors là, coup de théâtre, les opérateurs pourraient accepter de lâcher une partie de leur rente à long terme en échange d'un soutien à court terme.
Canu Info. Du mercredi.
Alors, l'IGPN a rendu un rapport. Et ce rapport est miraculeusement arrivé à l'AFP. Un rapport sur la fameuse charge de flic à Nice le 23 mars 2019. Cette charge qui est restée fameuse parce qu'une militante de Attaque, Geneviève Leguet, âgée à l'époque de 73 ans, s'était retrouvée sans connaissance sur le pavé suite à cette charge. Eh bien, figurez-vous que l'IGPN trouve que les flics ont exagéré. Et ça, c'est quand même pas tous les jours. Figurez-vous que la charge était disproportionnée. Figurez-vous qu'il y a même eu, ouvrez les guillemets, des ordres inadaptés. Et même que Madame Leguet aurait réellement été poussée par les flics. Alors qu'à l'époque, et contre toute évidence, Macron, par exemple, qui était au courant, parce que certainement il était là, il est un peu partout vu que c'est le président, avait quand même expliqué qu'il n'y avait eu aucun contact entre les flics et elle. Elle était tombée, elle s'était effondrée toute seule, comme ça. Bon, une des explications de tout ça, c'est-à-dire du rapport de l'IGPN, c'est la guerre des polices quand même. Parce que ce jour-là, il y avait la police nationale, mais il y avait aussi la gendarmerie qui était là. Or, le capitaine de gendarmerie qui commandait à ce moment a vraiment, vraiment pas apprécié la collaboration avec son collègue commissaire, le commissaire Rabat Souchi. Et le capitaine de gendarmerie a écrit un rapport salé qu'on trouve in extenso sur Mediapart. Il y qualifie la charge de brutale et violente. Il dit qu'elle est en totale disproportion et nécessitée face à une foule d'une trentaine de personnes assez âgées et très calmes. Il alerte ses supérieurs sur le comportement du commissaire Rabat Souchi, dont il dit qu'il est presque dangereux. Il dit qu'il hurle et il explique que Rabat Souchi ordonne de triquer du manifestant. Et du coup, plusieurs fois dans le rapport, ça revient ce truc de Rabat Souchi, ça a vraiment l'air d'être une de ces expressions... quand il est en forme, comme ça, là, triquer du manifestant. Triquer, vous savez, comme une trique, là, c'est-à-dire mettre des coups de bâton, quoi. Le rapport, c'est le rapport du coup du capitaine de gendarmerie s'est retrouvé dans le dossier de l'IGPN et bah, sans doute que l'IGPN n'a pas pu ne pas en tenir compte. Et là, voilà, il se retrouve à dire des monstruosités comme à charger les flics, quoi. Enfin, dans une certaine mesure. Alors, rappelons, même si on en a parlé, je ne sais plus, c'est la semaine dernière ou il y a 15 jours à propos d'une autre histoire de flic brutal et récompensé, que le commissaire Rabat Souchi, celui qui tient tellement à triquer du manifestant, a été décoré en juin 2019 par le ministère de l'Intérieur en compagnie de la plupart des flics qui étaient à l'époque pris dans des affaires un peu médiatisées de violences policières.
Et on va se faire une petite pause musicale ?
Allez, c'est le moment.
Allez, monte dans la voiture, j'ai
ouais, Bill,
monte,
elle
monte,
va.
Monte, Bill, elle mou... Hey, Atmen. Allez, monte, monte. Allez, on y va. Hey. Eh hey, mes Karim, mm-hmm. Pour ton du bled,
ton du bled.
Pour tous les Miss Mourt, le du bledy. 504 break chargé, allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue. Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le plein gasoil et gazouze pour pas flancher. Bilen, la pisser, le temps que je fasse mon petit marché. Direction le port, toujours le pied sur le plancher. Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. Plus 24 heures de bateau, je sais c'est pas un cadeau. Mais qu'est-ce que je vais kiffer sur la place Gido? À Béjaïa City, du haut de ma montagne. Avant de rentrer feu d'art, je fais un petit détour par Warlan. Vu qu'à Paris, j'ai des valisiers tout à ti. Je vais rassasier tout le village, même les plus petits. Du tissu et des bijoux pour les jeunes mariés. Et des jouets en pagaille pour les nouveau-nés. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je suis sur la plage à bouler mat avec mon zinc et son derbouka. Dans la main, un verre de Selecto, imitation coca. Une couche de Zidzitoun sur le corps et sur les bras. Avec mon poste sur un fond de Zerwania. On parle de tout et de rien, des Nike Air au Visa, de la traversée du désert au couscous de Yima. Et mon cousin me dit,
Karim, kiff le zetla.
Il était tellement bon que j'ai jeté mon cirage en rat. Avec 2-3 blédards, on tape la discussion. Mahmoud peut pas s'empêcher de dire que je suis dans la chanson. L'un d'eux me dit,
moi je t'ai pas vu cette télévision.
Et l'autre me demande,
Sahat Alaf Michael Jackson.
Il parle trop vite et en argot de blédard. Je sais ce qu'il ferait pour une poignée de dinar, connard. Le soleil se couche et tout le monde rentre chez soi. C'est l'heure du repas et du latte. D'autres la chicha. J'ai passé un bon mois dans ce qu'on appelle le tiers monde. Et si j'avais assez d'oseille, je ramènerais tout le monde. Mais je peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe vraiment. J'ai 10 morceaux aux disparus, aux enfants et aux mamans. Et je suis rentré à la cité.
Arbeya,
content de revoir mes potos
et ma chebba.
Pendant 2 semaines, j'ai mangé
que de la charba.
J'irai finir mes jours là-bas. Inch'Allah, rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas.
S'il te plaît, vas-y, laisse-moi ramener mon scooter. Bon, dans ce cas-là, je ramène mon 3/4 alors. Bon, alors je prends tous mes CD, toutes mes cassettes. Bon, je prends rien alors. me fais la boule au moins avant de partir. Je ramène la PlayStation. Bon, la télé du salon au moins. Tu crois que je vais aller là-bas pour me marier ou quoi?
Vous aurez reconnu, en tout cas on l'espère, le 113 avec Tonton du Bled, et on va passer à la rubrique Il faut que ça se sache.
Écoutez, à tout moment, ils peuvent venir te prendre pour les moments qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des limites par terre. C'est que les lois mises en place.
Contre la machine.
Et contre la machine à expulsion. Et eh bien, on va parler des contours de la future réforme de l'asile en Europe. On en sait un peu plus. Ça rentre pas à fond dans les détails. Et on rappelle quand même que cette réforme devrait être acceptée par les 27 pays membres. Dans les contours, en tout cas, ce qui se dessine, c'est une volonté de rendre le système plus efficace. Et quand l'Europe et les politiques veulent rendre des politiques d'asile plus efficaces, et ben, ce qui sous-entendent beaucoup là-dessous, c'est de rendre la politique d'expulsion bien plus efficace qu'elle ne l'est actuellement. Bon, alors, l'idée, bien sûr, on le rappelle, on en a parlé la semaine dernière, ça a été annoncé en grande pompe, c'était d'arrêter le règlement Dublin, d'en finir avec ça. Le règlement Dublin, c'est le principe consistant à confier au premier pays d'entrée d'un migrant de l'Union européenne la responsabilité de traiter sa demande d'asile, et donc de traiter sa demande, et donc de loger la personne. Enfin, en tout cas, voilà, il doit être présent dans le pays. Le pays responsable de la demande d'asile, dans cette future réforme, pourra être celui dans lequel un migrant a, par exemple, un frère ou une sœur, dans lequel il a déjà travaillé ou fait ses études. Cela pourra aussi être celui qui lui a délivré un visa. Et sinon, si c'est pas le cas, ces pays de première arrivée resteront à charge de la demande. Bon, en gros, on est en train d'ajouter des exceptions à Dublin, donc ça fait pas grosse refonte. C'est en gros le principe de base, si un migrant rentre dans un pays, ce premier pays est responsable de sa demande d'asile, sauf s'il a un frère ou une sœur dans un autre pays, sauf si il est déjà venu dans ce pays via un visa, sauf, enfin voilà, des exceptions, mais pas de gros changements. Si un pays est soumis à une pression entre guillemets migratoire et estime ne pas pouvoir assumer la prise en charge des migrants, il peut demander l'activation d'un mécanisme de solidarité obligatoire qui doit être décidé par la commission. Là, si c'est validé par cette commission, les États pourront choisir entre donc les États qui sont sollicités pour aider le pays qui a demandé l'activation de la commission, pourra choisir entre accueillir des demandes d'asile, parrainer, donc là pareil je mets des guillemets, hein, c'est leur terme, l'expulsion de migrants n'ayant pas le droit de rester. Donc en gros, par exemple, hein, on imagine la France, hein, bah, la France, gros moyen, machin. Un pays comme, je sais pas, la Grèce par exemple, dit on n'en peut plus. La France dit ok, alors elle va pas dire oh, nous on va en prendre, ou alors peut-être 2-3 s'ils sont syriens, qu'ils passent bien, que tout ça. Et les autres, bon bah en fait on vous envoie des avions puis on va les expulser à votre place, hein, c'est pas grave. Ou alors ils ont une autre option aussi pour les pays qui ont plein de pognon, hein, c'est de filer du pognon au pays en question pour qu'ils construisent des centres de rétention.
Voilà. Ouais. C'est la générosité.
C'est la grande classe, hein, ce futur Dublin 4. Bon, bien sûr, en général, dès qu'on touche à l'asile et à tout ça en Europe ou dans n'importe quel pays, le premier truc qui arrive, c'est le renforcement des frontières avec des contrôles accrus aux zones de passage, tout ça. Et donc, bah, la conséquence de ça, c'est encore plus de pouvoir à Frontex. Des personnes qui vont prendre encore plus de risques pour rejoindre l'Europe. Ça n'a jamais permis, hein, de stopper n'importe quel flux. Et il n'y a pas une personne qui a renoncé en disant « Ouh, bah, ça va être difficile », parce qu'en fait, c'était déjà difficile à la base. Donc voilà. Autre point craignos, c'est l'accélération de la procédure pour les migrants, entre guillemets, peu susceptibles de l'obtenir. La demande d'asile. Alors, il s'agit de ceux venant. Alors, c'est pas, c'est, ça va pas être ça va pas trop être individualisé. C'est-à-dire que ça va pas être en fonction de, je sais pas, vous, un petit entretien vite fait ou quoi. Non, ça va être en fonction du pays dans lequel vous venez. Par exemple, s'ils ont un faible taux de positivité, qui serait inférieur à 20%, par exemple. C'est le taux qui est donné pour l'instant, comme par exemple la Tunisie, ou le Maroc. Et ben là, du coup, déjà à la base, vous avez pas trop de chance d'obtenir le statut de demandeur d'asile. Mais en plus, du coup, si dans ce qui se prévoit, ce truc-là est appliqué, ben en fait, vous pouvez pas faire votre demande d'asile dans un pays dans lequel vous aurez choisi. Et éventuellement, du coup, se faire refuser l'asile et je sais pas, essayer tant bien que mal de trouver du boulot, de trouver de quoi se marier, enfin tout ça, un peu les espèces de bidouilles qui existent jusqu'à maintenant, quand même pour essayer de s'en sortir malgré tout. Maintenant, là, en fait, l'idée est, on imagine qu'il y aura des failles, mais en tout cas, l'idée ce serait de bloquer à la frontière ces gens-là, et ils pourront toujours déposer une demande d'asile qui sera traitée dans un délai de 12 semaines, et la demande se fera à la frontière. Donc en gros,
pendant 12 semaines, les gens ils restent dans des sortes de camps,
de gros hotspots. Ouais, ça va être, en gros, il y aura des gros hotspots, donc dans les pays où il y a des principaux flux qui rentrent. La partie humanitaire dans tout ça est sauvée. Alors quand même, si jamais on pensait que tout ça c'était un peu trop rigide, ou on sait pas quoi, est-ce que non, on voit pas trop, hein, ce qu'il aurait pu avant ça. Donc voilà. Alors il y a un mécanisme de solidarité qui va se mettre en place. Attention, les ONG qui procèdent à des sauvetages en mer Méditerranée ne pourront pas être poursuivis judiciairement. Et ça, quand même, c'est là qu'on voit qu'il y a une Europe qui s'engage et qui a pas peur un peu de faire face aux grands défis du monde. C'est-à-dire que, bah, en fait, quand même, jusqu'à maintenant, ok, elle pouvait être poursuivie, l'Italie a essayé de le faire, mais en général, les procédures tombaient à l'eau. Je veux dire, même les juges italiens disaient, bah non, il n'y a pas grand-chose. Ou... Alors, on ne sait pas si par exemple, ça fait que, dans ce qu'ils entendent par poursuite judiciaire, ça fait que, par exemple, là, actuellement, il y a quand même plusieurs bateaux.
On va en reparler tout à l'heure, mais ça ne fait pas partie des poursuites judiciaires.
Qui sont maintenus à quai à cause de procédures de vérification, parce que, votre hélice, elle est un petit peu tordue quand même. Voilà, qui sont donc bloqués volontairement par certains pays là-dessus. Donc ça, on ne sait pas si ça concerne ça ou si ça se trouve, ce sera une vraie protection. On ne sait pas, peut-être qu'il y aura une vraie protection. Mais voilà, en tout cas... voilà,
un parrainage.
C'est ça. C'est bon, on vous... D'accord, vous pouvez faire ça, mais par contre, vous pourrez aussi réexpulser des gens. Bref, bon, ce sera à peu près
partenariat. Vous les amenez, puis après vous les rendez.
Ouais, c'est ça. Bon, alors, si bien sûr, je le disais tout à l'heure, si ces propositions ne sont pas encore entrées en vigueur, il semblerait quand même que c'est pas un vague projet, mais qu'elles émanent de longues discussions entre les pays membres. Du coup, il reste plus qu'à qu'elles soient approuvées parmi les 27 pays membres, on n'est pas à l'abri de, d'un revirement de situation. Mais voilà, ça n'a pas l'air joli, joli.
Il faut que ça se sache.
Et on va maintenant écouter Hélène, qui était tout à l'heure devant la cour d'assises de Lyon pour soutenir Pierre-Alain Mannoni. Il y avait à peu près une centaine de personnes pour le soutenir à l'occasion de sa troisième comparution devant la justice. On la laisse nous expliquer la situation plus en détail.
Bon, je m'appelle Hélène, je milite au réseau Éducation sans frontières à Lyon et puis dans le cadre aussi du collectif de soutien aux réfugiés et migrants Lyon 69.
Ok, et donc aujourd'hui vous étiez devant la cour d'assises à Lyon, et est-ce que tu peux nous rappeler un peu qui est Pierre-Alain Mannoni et pourquoi vous avez eu envie d'être là ?
Oui, alors Pierre-Alain Mannoni est un enseignant, est plutôt un ingénieur de l'université de Nice, d'une quarantaine d'années, qui vit donc dans la région, dans une région où il y a beaucoup de passages de réfugiés, d'exilés qui veulent venir en France. Et il a trouvé...
Dans la Roya ?
Dans la Roya, oui. Il a été accusé de faire du transport illégal de réfugiés, pour dire clair, du trafic de migrants, alors qu'il a tout simplement accepté de transporter trois femmes d'origine d'Érythrée qui avaient fui la dictature de leur pays et qui, après un très long parcours, je crois à peu près 6000 km, après avoir échappé au réseau en Libye, au réseau libyen, après avoir échappé à la mort en Méditerranée, se sont retrouvés donc à passer la frontière italo-française, mais dans un état de santé très grave, malade, ne pouvant quasiment plus marcher. Et il a accepté donc de les emmener pour se faire soigner. Et il se trouve qu'évidemment, ils ont été arrêtés et contrôlés
à la frontière,
par la police française, pas très loin de la frontière, mais pas à la frontière, sur le territoire français, puisqu'il y a quand même beaucoup de contrôles dans cette région-là. Et donc, ces femmes, évidemment, ont été renvoyées de l'autre côté de la frontière. Lui, je crois qu'il a passé un ou deux jours en garde à vue. Sa voiture a été confisquée. Et depuis lors, il fait l'objet de procédures judiciaires. Donc,
c'était quand ? Est-ce que tu peux
nous... C'était en 2016. Et depuis lors, donc, il est poursuivi par la justice. Donc une première fois au tribunal de Nice. Ensuite, à la cour d'appel de Nice, qui l'a condamné à 2 ans, 2 mois de prison avec sursis. Et lui et Cédric Héroux, qui est aussi un autre militant qui vient au secours de ces personnes exilées qui arrivent en France. Ils ont saisi le Conseil constitutionnel, considérant que dans la devise française « liberté, égalité, fraternité », leur action faisait partie d'une mesure de fraternité. Et finalement, le Conseil constitutionnel a décidé qu'effectivement, il était important que rentre dans la loi ce droit de fraternité. Donc, suite à cela, ils ont fait appel à la Cour de cassation. Et la Cour de cassation a cassé la décision qui avait condamné Cédric Héroux pour à peu près les mêmes raisons. Et elle a cassé aussi la condamnation qui avait été prononcée contre Pierre-Alain Mannoni. Mais en même temps, la Cour de cassation a demandé un nouveau procès. Et donc, en mars dernier, le nouveau procès pour Cédric Héroux a eu lieu ici à Lyon, à la demande de la Cour de cassation, à la veille du confinement. Et aujourd'hui, c'est donc le nouveau procès en cour d'appel de Pierre-Alain Mannoni.
Cédric Héroux, lui, il avait été relaxé du coup.
Alors, Cédric Héroux a été relaxé par la Cour d'appel de Lyon, mais le parquet général reporte l'affaire en cour de cassation. On considère donc qu'il y a...
Ils ont fait appel.
Non, le parquet général, Cédric Héroux a été relaxé par la cour d'appel de Lyon, donc normalement les choses devraient s'arrêter. Eh bien non, Le parquet général renvoie l'affaire en cour de cassation, considérant que les attendus, les arguments ne sont pas suffisants. Voilà. Donc, pour moi, ça veut dire qu'il y a un véritable acharnement politique pour rendre, pour condamner les personnes qui viennent en aide aux gens qui sont dans le besoin. Acharnement que l'on voit tous les jours aujourd'hui à Calais, à Briançon et même à Lyon aussi, avec la poursuite, les poursuites que subissent particulièrement les mineurs isolés ou ceux qui se déclarent mineurs, quoi.
Du coup, Cédric Héroux, bah, ça n'est pas terminé non plus. Et aujourd'hui, c'est Pierre-Alain Mannoni. Est-ce qu'on peut penser que l'issue du procès, ça sera la même ?
Ça, évidemment, on aimerait bien qu'elle soit la même. Normalement, elle devrait être la même. C'est logique, puisque la fraternité est reconnue dans le droit français. Il n'y a aucune raison. Mais en même temps, moi, je m'interroge beaucoup, compte tenu du contexte politique actuel, de l'issue du procès. Alors, on passe son temps à nous dire que la justice est indépendante, mais enfin, voilà.
Et pour Cédric Héroux, qui n'en a pas terminé, du coup, ça va être quoi l'enjeu maintenant ? Parce que si c'est une question d'argumentaire, comment ça va être possible de faire mieux ?
Ça, je ne sais pas. Que va faire la Cour de cassation ? Est-ce que la Cour de cassation va casser la décision de la Cour d'appel de Lyon de mars 2020 ou non ? C'est ça la question. Je ne suis pas dans le secret des dieux de la Cour de cassation, je n'en sais rien. Okay. Voilà.
Et donc pour Pierre-Alain Mannoni, on devrait avoir le verdict ce soir ?
Non, je ne pense pas qu'on n'a pas eu le verdict pour Cédric Héroux le soir même. Par contre, l'audience est très longue. Elle dure 4 ou 5 heures. Donc, il ne faut pas espérer les voir sortir avant 19 heures ce soir, voire plus. Et ensuite, ça peut être 10 jours ou beaucoup plusieurs semaines pour avoir le résultat de l'audience.
Le fait de venir faire un soutien devant comme ça, est-ce que lui, Pierre-Alain Mannoni, il était là tout à l'heure quand vous avez commencé ou comment ?
Oui, tout à fait, parce que j'étais en contact téléphonique avec lui et il était tout à fait favorable à ce rassemblement. Et l'intervention qu'il a faite devant nous tout à l'heure dans le rassemblement montre qu'il est déterminé à aller jusqu'au bout. Ce sont ses propres paroles, parce qu'il voudrait que cessent les poursuites de gens qui, évidemment, font des actes de solidarité auprès des gens qui en ont besoin, quoi. Et il souhaiterait effectivement que l'issue de son procès permette de mettre fin à cette traque des gens qui sont solidaires.
Que ça fasse jurisprudence.
Voilà, que ça fasse jurisprudence.
D'accord.
C'est un peu ça aussi son objectif, bien entendu, au-delà du fait que, bien entendu, l'issue de ce procès pour lui est très importante, c'est une évidence, d'autant plus que voilà, qu'il est salarié, qu'il est. Voilà.
Il faut que ça se sache.
Et pour rester dans les affaires judiciaires, le tribunal administratif de Lille a confirmé aujourd'hui l'interdiction décidée par le préfet de distribuer de la nourriture aux migrants à Calais jusqu'à fin septembre. On vous en parlait il y a quelques semaines, les assos d'aide aux migrants à Calais subissent pas mal de harcèlement pendant les distributions, surtout ces derniers temps. Ils ont été relégués sur le port en arguant différents arguments, la préfecture a argué différents arguments de propreté de la ville, de gêne du voisinage, etc. Un arrêté préfectoral qui leur a donc interdit des zones du centre-ville et c'est une interdiction qui vient d'être validée par la justice. Cette décision, le tribunal la justifie par le fait qu'une association est mandatée par l'État pour assurer le ravitaillement en eau et en nourriture et qu'il ne faut pas qu'il y en ait d'autres qui continuent leur distribution. Le juge a accepté les dires des autorités affirmant que les distributions mises en place par l'État suffisaient à couvrir les besoins de l'ensemble des personnes exilées présentes à Calais. Là, l'Auberge des migrants, qui est une des associations, nous précise que c'est faux, que ça ne suffit pas, y compris pour celles qui survivent au centre-ville en considérant que la circonstance pour y accéder, c'est de 3 km. Les migrants doivent parcourir 3 km et ce n'est pas de nature à caractériser des conditions de vie indignes. Donc c'est un petit peu contestable puisque les indicateurs humanitaires élaborés par le HCR précisent par exemple au sujet de l'eau potable que celle-ci doit être accessible à moins de 500 mètres des lieux de vie des personnes. Et les distances à Calais sont plutôt de 4 à 5 km, qui représentent une heure de marche aller. Et il faut se rendre deux fois par jour aux distributions, donc ça fait beaucoup de chemin. Pour justifier sa décision, le juge a encore considéré que les associations pouvaient toujours procéder à des distributions en centre-ville en se décalant de quelques centaines de mètres pour sortir du périmètre de l'arrêté. Alors, en raisonnant ainsi, le juge a quand même un peu ignoré le harcèlement policier en zone non interdite, qui a déjà conduit les bénévoles à suspendre plusieurs distributions. Et puis, il laisse le champ libre au préfet pour étendre le périmètre interdit. Dans ces conditions, les associations ont décidé de saisir immédiatement le Conseil d'État afin que soit consacrée l'évidente primauté du principe de fraternité qui implique la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire sans considération de la régularisation de son séjour.
Canu Info du mercredi.
Alors, quand on a commencé cette chronique, il faut que ça se sache, c'était, si je me rappelle bien, au début des années 2010, on ne savait pas qu'on allait tellement y parler de bateaux, et que les noms de certains de ces bateaux allaient entrer dans un peu notre légende dorée, on pourrait dire. Mais depuis 2015, ça a d'abord été SOS Méditerranée, et puis petit à petit, un certain nombre d'autres. Et comme des collégiens collectionnent des photos de footballeurs, on se retrouve à être fan de quelques navires, capitaines ou ONG. Et aujourd'hui, c'est donc du Alan Kurdi qu'il est question. C'est le bateau de l'ONG allemande qui s'appelle Sea Eye. Et c'est un des très rares qui sont sur l'eau aujourd'hui. Alors pourquoi un des très rares? Parce que les autorités italiennes viennent de bloquer à quai il y a quelques jours le Sea-Watch 4, sous prétexte d'irrégularité technique. Le Sea-Watch 4 vient rejoindre le Sea-Watch 3. Le Ocean Viking de SOS Méditerranée aussi. En tout, il y en a 5 bateaux qui sont bloqués en Italie. 5 bateaux et un avion. Un avion qui survolait la zone où la fameuse SAR zone, Search and Rescue, la zone où les migrants qui partent de Libye se noient le plus souvent. Alors bien sûr, pas de bateau, pas d'avion. Les navires de commerce qui se détournent de la zone pour pas trop risquer d'être confrontés au choix entre, d'un côté, laisser se noyer des gens, ou d'un autre côté, les secourir, mais à ce moment-là, faire face à des interdictions d'accoster partout en Europe et des difficultés administratives incroyables. Et comme ça, finalement, plus personne ne sait ce qui se passe dans la SAR zone. Enfin, presque plus personne, puisque le Alan Kurdi, lui, est encore à l'eau, il est encore actif. Et samedi, il a sauvé d'abord 114 personnes et puis une poignée d'autres. Et samedi soir, il transportait 133 rescapés. Alors, il a demandé à accoster à Malte, le port sûr le plus proche. Malte a refusé catégoriquement, juste niet. Il a demandé à l'Italie. Alors l'Italie a bien voulu évacuer quelques personnes, les personnes les plus mal en point, 8 personnes très précisément. Reste donc 125 rescapés sur le bateau. Après, l'Italie a dit que l'ONG n'avait qu'à se tourner vers son gouvernement, le gouvernement du pays où l'ONG est déposée, quoi. Et donc c'est le gouvernement allemand. Ah le gouvernement allemand, lui, il a surtout répondu qu'il fallait trouver une solution européenne. Alors autant dire que quand on dit une solution européenne, ça voudrait dire des semaines de tractations entre États pour répartir quelques dizaines de personnes et blabla, moi j'en prends 12, toi t'en prends 17, oui mais seulement si c'est des chrétiens, oui mais moi j'en prends 10, mais que si c'est des enfants malades. Enfin, on a déjà eu ça à une époque. Alors voilà, cette fois-ci c'est pas la capitaine qui s'appelle Berbel Boys qui prend la décision, c'est le siège de l'ONG et la décision c'est de mettre le cap sur Marseille. Il faudra 3 jours, peut-être plus en fonction de la météo, au bateau pour arriver à Marseille. Marseille, c'est son port d'attache. C'est celui où le bateau devait de toute façon revenir bientôt pour tous ces trucs techniques qu'un bateau doit faire régulièrement à quai. Et là, Marseille, à Marseille, qu'est-ce qui se passe et comment ça réagit? Le maire par intérim de Marseille. Alors vous voyez, à Marseille, il y a eu les élections municipales, il y a eu la nouvelle maire écolo, Michel Rubirola. Et puis, sauf que Michel Rubirola, là, tout de suite, elle est au lit avec la fièvre. Je ne sais plus si c'est le Covid ou si c'est pas le Covid, mais on s'en fout. Mais en tout cas, il y a un certain Payan qui la remplace jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau capable d'administrer la ville. Et donc, Payan a dit et a tweeté que le bateau avec ses naufragés est le bienvenu et sans condition. 125 personnes dans une ville d'un million d'habitants, c'est vrai que c'est pas exactement le grand emplacement. Mais le maire, de toute façon, lui, il peut nous dire ce qu'il a envie, ce qu'il voudrait. Il peut faire des sortes de vœux pieux, mais de toute façon, c'est pas lui légalement qui prend la décision, c'est bien le gouvernement français. Or, pour l'instant, le gouvernement français n'a rien dit du tout. Ni Macron, ni aucun ministre, ni aucun préfet, ni le moindre agent du port de quoi que ce soit. il faut dire que ça va être la première fois qu'un bateau de sauvetage de migrants et migrantes va essayer d'accoster en France. Jusqu'à maintenant, la France pouvait toujours faire semblant de regarder ailleurs, filer des thunes pour équiper les gardes-côtes libyens, voter des gros budgets pour Frontex, mais se satisfaire que l'Italie, la Grèce ou Malte se retrouvent à gérer les arrivées et aussi à faire vraiment les crapules, comme garder les bateaux à quai sous des prétextes fallacieux, comme interdire aux bateaux de s'approcher des côtes à des moments alors qu'il y avait des dizaines de personnes sur le bateau qui étaient au fond du désespoir. Bon, jusque-là, la France n'était pas dans ce sale rôle-là. Mais là, voilà, ça leur arrive dessus directement. Il va falloir choisir publiquement soit de laisser débarquer ces quelques dizaines de personnes, hein, soit de faire plus frontalement obstacle aux seules personnes qui remplissent le minimum de ce qu'on pourrait appeler une obligation morale de l'Europe, en but à toutes les tracasseries administratives et réglementaires, l'obligation de sauver quelques-unes des vies sacrifiées sur l'autel de la forteresse Europe.
Et on peut finir ce Canu Info par une breaking news, mais on apprend aujourd'hui que Juliette Gréco est morte à l'âge de 93 ans.
Dites donc.
Ben voilà, on était justement en train d'essayer de se souvenir qui pouvait bien être Juliette Gréco.
Et de si réellement on avait su qu'elle était vivante.
À 93 ans, c'est vrai. Et a priori, du coup, vous ne retrouverez pas l'émission Idées Noires, car ils ne sont pas en train de se préparer derrière le studio.
Donc on vous laisse avec les bandes continues.
Et nous, on vous retrouve la semaine prochaine.
Ciao.
Merci de nous avoir écoutés.
Radio Canu. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2. Et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.